Louanges et remerciements sont rendus au Seigneur déjà pour ces précieux cantiques que nous avons chantés. Et nous sommes invités à accepter le salut, à croire et à faire confiance au Seigneur. Avant que nous ne prions, je voudrais lire un psaume précieux, le psaume 95. Lisons-le ensemble et ensuite nous allons prier. Psaume 95, verset 1. Venez, acclamons le Seigneur, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des actions de grâce, faisons retentir des cantiques en son honneur. Verset 3, car le Seigneur est un grand Dieu et un grand roi au-dessus de tous les dieux. Lui, dans la main duquel sont les profondeurs de la terre et à qui appartiennent aussi les sommets des montagnes. Verset 5, lui à qui appartient la mer, c'est lui qui l'a créée, et la terre ferme, ce sont ses mains qui l'ont formée. Venez, verset 6, adorons et prosternons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau de sa main. Oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix. Verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Meriba, comme au jour de Massa, dans le désert, où vos pères m'ont tenté, m'ont éprouvé, lorsqu'ils voyaient mes œuvres pendant 40 ans. Verset 10, pardon. Pendant 40 ans, j'ai eu du dégoût pour cette génération, et j'ai dit, c'est un peuple au cœur égaré, mais ils n'ont pas voulu connaître mes voies. Ainsi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon lieu de repos. Jusqu'ici, cette merveilleuse et précieuse parole de Dieu. Ici, l'invitation nous est adressée à tous. Venez, acclamons le Seigneur. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Et comme le compositeur de cantiques le dit, il n'y a de salut en aucun autre qu'en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le salut. Il nous est apparu pour cela. Et pour cela, nous lui sommes reconnaissants. Et nous voulons l'acclamer, le remercier avec des cantiques de louange et aussi exalter son saint nom avec tout ce qui est en nous. Pour cela, nous voulons nous lever maintenant et prier. Père Céleste, nous te disons merci de tout cœur pour cette heure et pour cette communion que tu nous accordes. Dieu fidèle, nous voulons te louer et élever ton saint nom. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre salut pour nous, qu'il n'y a pas d'autre nom pour nous qui a été donné aux hommes sous le ciel, dans lequel le salut se trouve, si ce n'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, nous te remercions Seigneur, nous t'acclamons, nous t'exultons Seigneur, car tu es notre salut, tu es devenu pour nous tout en tout. Et ainsi nous t'adorons. Seigneur, nous te prions, viens aussi au milieu de nous en cette heure du soir. Bénis-nous, ô Seigneur, car c'est pour cela que nous nous sommes réunis, pour être bénis nouvellement par toi. Non, Seigneur, par habitude, nous ne nous rassemblons pas par habitude ou par tradition. Non, Dieu fidèle, nous venons ici pour t'écouter, pour savoir ce que tu as à nous dire et pour que tu nous bénisses. Seigneur, nous croyons que ce soir aussi, tu nous béniras par ta précieuse et sainte parole que tu as prononcée et que tu prononceras encore, Seigneur. Remercié sois-tu, Seigneur, de ce que nous pouvons venir à toi avec tout. Aie pitié de nous qui écoutons et aie pitié de celui qui parlera au Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder ta grâce et ton soutien. Aide-nous en ces derniers jours. C'est notre prière intime au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous a été donné, entre autres, pour que nous puissions reconnaître ce que Dieu nous a donné par grâce. Et que l'Esprit de Dieu soit agissant et qu'il nous révèle la parole et nous introduise dans toute la vérité, jusqu'à ce que nous soyons devenus un avec la parole et que la parole puisse se réaliser à travers nous. Et Paul dit ici, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, « Et nous en parlons aussi, et nous en parlons aussi, non pas avec les paroles comme l'enseigne la sagesse humaine, mais avec des paroles qu'enseigne l'Esprit. » Alléluia. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu agit et est révélée par l'Esprit. Et l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Et l'homme peut sonder avec son intelligence et devenir aussi vieux que Méthusalem, mais en savoir ensuite autant qu'il le savait auparavant. Mais lorsque cela lui est révélé par l'Esprit, alors les choses sont différentes. Alors il ne s'agit plus d'une réflexion ou d'une transmission intellectuelle, mais il s'agit de la vérité de la parole de Dieu révélée par l'Esprit. Et c'est précisément ce dont nous avons besoin. Laissez-moi, je vous en prie, lire la suite. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu pour reconnaître ce que Dieu nous a donné par grâce. Et verset 13. Et nous en parlons aussi, non pas avec des paroles comme l'enseigne la sagesse humaine, mais avec des paroles qu'enseigne l'Esprit, utilisant un contenu inspiré par l'Esprit, associé à un langage inspiré par l'Esprit. Ça, c'est bien le secret. Ce contenu de la parole de Dieu inspirée par l'Esprit doit être associé à une prédication inspirée par l'Esprit afin de transmettre et d'insérer dans le cœur de son peuple la signification originelle du discours de Dieu. Et c'est là que nous sommes reconnaissants à Dieu d'avoir trouvé dans nos jours un instrument pour relier, associer le contenu de la parole de Dieu inspirée par l'Esprit à un langage inspiré par l'Esprit sur la base de la révélation divine et pour l'exposer au peuple de Dieu. Oh, alors la parole nous est adressée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui que Dieu nous parle par l'Esprit. Et je ne sais pas si tous ceux qui sont ici ou qui entendront éventuellement ce qui est dit, je ne sais pas si on a pleinement conscience de la différence entre l'époque où les hommes prêchaient sur la parole de Dieu et l'époque actuelle où un contenu inspiré par l'Esprit a été associé à un langage et à une prédication inspirée par l'Esprit ou une révélation divine totale de sa volonté et de sa parole a été donnée. La phrase était longue et j'espère que vous l'avez tous comprise. Avons-nous perçu la différence? L'apercevons-nous? Amen, votre amen n'était pas assez fort. Je ne vous crois pas. Je suis désolé. Je suis quelqu'un qui croit très bien et très vite, mais cet amen ne m'a pas convaincu. Avez-vous tous compris, perçu la différence entre le temps d'avant et le temps où nous pouvons maintenant écouter la parole révélée par l'Esprit? Avez-vous remarqué cette différence? Alors dites Amen à haute voix. Amen. Maintenant, je peux le croire. Louange et remercié soit le Seigneur. Pour moi, c'est une chose très sérieuse, car il y a une grande différence entre les hommes qui parlent de Dieu et Dieu qui parle à travers les hommes. Oui, si les hommes exposent leur opinion sur Dieu et la parole de Dieu, ou si un homme vient envoyé par Dieu et transmet la révélation par le Saint-Esprit au peuple de Dieu. Là, il y a pour moi une grande différence. Et puisse cette différence nous être inscrite dans le cœur et dans l'esprit afin que nous devenions reconnaissants. Malgré tout ce qui peut se passer sur la terre, nous avons de bonnes choses à attendre. Et il est certain que les choses vont encore s'empirer. Mais nous pouvons dire une chose. Notre Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses, relevez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Selon Luc 21, verset 28. Bien-aimés, que la parole inspirée par l'Esprit et la révélation que l'Esprit nous a donnée produisent en nous aussi le divin et le spirituel, afin qu'un fruit puisse être manifesté. Jésus-Christ était le Fils de Dieu, engendré par le Saint-Esprit. Il était le premier-né parmi de nombreux frères, et nous pouvons être fils et filles de Dieu, engendrés par le Saint-Esprit. Dans cette dernière génération, le contenu inspiré par l'Esprit a été associé au langage inspiré par l'Esprit, et nous devons avoir le même Saint-Esprit qui nous conduit dans toutes ces vérités. Et alors seulement, nous deviendrons participants de l'ensemble de la chose. On pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet, mais j'ai décidé de ne plus prêcher, mais simplement de traiter les prédications qui ont déjà été proclamées. Et Dieu nous bénit très puissamment par elles, et nous lui en sommes reconnaissants. Loué soit notre Dieu qui fait de grandes choses par grâce parmi son peuple, ici et en tout lieu. Oui, nous l'avons vu et nous l'avons entendu. La parole de Dieu commence à porter du fruit et à avoir un impact. Ici, dès la page 2, dans cette prédication, il est dit, citation, « Même si nous ne sommes pas d'accord avec quelqu'un, pourquoi ne pouvons-nous pas le faire d'une manière fraternelle ?» Voyez, si Christ est dans votre cœur, peu importe à quel point vous êtes en désaccord avec cette personne, vous l'aimez et vous le respectez quand même. Je suis souvent en désaccord avec beaucoup de personnes. Cependant, je n'ai jamais vu quelqu'un avec qui je n'étais pas unanime et que je n'ai pas estimé au-dessus de moi et autour de qui je n'ai pas mis mes mains et que je n'ai appelé mon frère en essayant de l'aider au plus de mon possible. Je ne suis peut-être pas d'accord avec lui parce que je ne crois pas la même chose que lui, et ainsi de suite. Mais je peux lui exposer mon point de vue, et il peut m'exposer le sien. Et ensuite, nous le mettons ensemble, nous le passons au pain fin, et nous voyons ce qui en résulte. Dans le cas d'un tel désaccord, nous ne devrions jamais nous mettre en colère et vouloir nous blesser ou même nous détruire ou quelque chose de ce genre. Nous devrions toujours essayer de construire. Dans ce premier paragraphe de cette prédication, nous avons entendu toute une prédication entière. Il n'y a pas besoin d'y ajouter quelque chose. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois ces derniers temps, et c'est en fait la joie la plus profonde et aussi la reconnaissance que j'ai dans mon cœur, que le plein amour de Dieu soit là. Peu importe ce que quelqu'un dit, peu importe les désaccords, à tout moment, je peux mettre mes bras autour de chaque frère, peu importe ce qu'il croit et enseigne, à tout moment. Si j'ai un critère, alors c'est celui de l'amour de Dieu qui est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et si j'ai une seule pensée fondamentale dans mon cœur, alors c'est édifier, construire et aider. Non pas de tirer l'épée pour couper l'oreille, mais de se servir les uns les autres dans l'amour. Et Frère Branham dit, si nous ne sommes pas d'accord avec quelqu'un et que la conversation est là ou a lieu et que quelqu'un est blessé et ainsi de suite, alors que se passe-t-il? Alors le Seigneur Jésus n'est tout simplement pas là. Et je me souviens, je suis croyant depuis assez longtemps. Je me souviens qu'il y a une bonne trentaine d'années, on échangeait des opinions différentes autour d'une table sur des passages bibliques et l'atmosphère était la même à la fin. À la différence près que l'atmosphère était la même après l'échange d'idées qu'avant, chacun exposait son point de vue et l'affaire était réglée. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, il y a une telle hostilité et personne ne peut prétendre me peindre noir pour blanc ou blanc pour noir. Peut-être que je ne vois pas très bien, mais je ne suis pas daltonien. Je sais que tous ceux qui sont nés de Dieu portent l'amour de Dieu dans leur cœur, car c'est par amour que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Et dans cet amour divin se trouve le pardon et la réconciliation. Et celui qui parle d'amour et n'a pas de pardon divin et de réconciliation divine a l'amour juste sur ses lèvres, mais la haine dans le cœur. Celui qui a l'amour dans le cœur apporte avec lui pour en tout temps et en tout lieu le pardon qu'il a reçu et la réconciliation qu'il a reçue parce qu'il les a lui-même reçus et qu'il est devenu une partie de la chose. N'est-ce pas merveilleux? Un critère de mesure. Il y a de même, ici et là, un critère que nous pouvons appliquer. Et ensuite, Frère Branham poursuit, eh bien, nous avons eu un temps formidable dans le Seigneur. Le Seigneur nous a puissamment bénis et j'en suis si reconnaissant. Je me suis souligné cette phrase ici et j'ai pensé au jour passé. Nous pouvons dire que nous avons eu un temps glorieux dans la présence de Dieu et nous pouvons dire que Dieu nous a tous bénis et aussi certainement ici quand vous étiez ensemble. Maintenant, il y a quelques éléments que je me suis notés ici. Je vais être bref. De la page 8, il dit, il est très étrange de voir comment Dieu a parlé ici d'une manière simple. Dieu parle aux hommes à travers des rêves, je le crois. Mais dans ce cas, la manière dont Dieu a eu besoin de la chose du second degré était étrange. Vous savez, pour l'expliquer très brièvement ici, la première chose que Dieu a faite, c'est de donner une vision pour que l'homme concerné reçoive une instruction de Dieu en état d'éveil pendant la prière. Et la deuxième possibilité qu'il qualifie de second degré ou secondaire était que Dieu donne un rêve dans le subconscient pendant le sommeil. Et ici, il se réfère au rêve que Joseph avait reçu. Et ce rêve ne nécessitait aucune interprétation. Ce rêve était une instruction divine claire sur ce qui devait être fait. Et maintenant, il poursuit. Lorsqu'un rêve est correctement interprété, il équivaut à une vision. Si il est vraiment un rêve correctement interprété. Dieu l'a utilisé depuis toujours dans l'Ancien Testament et à travers les âges. Et il a promis de l'utiliser à nouveau jusque dans les derniers jours. Maintenant, les gens peuvent beaucoup manger et ainsi de suite et faire des cauchemars. Alors ce ne sont pas des vrais rêves spirituels. Il n'y a pas d'écho en vous lorsque vous l'entendez ou lorsque vous le lisez. Certaines de ces choses peuvent sembler justes, mais il y a aussi des vrais rêves spirituels. Ici, dans la chapelle, nous savons que Dieu donne les rêves aux hommes. Ils sont interprétés, ils se réalisent, ils sont réels, vrais. Mais c'est d'une manière secondaire que cela se produit. Nous évoquons ici brièvement les deux. Un rêve qui se produit parce que l'on réfléchit beaucoup et que l'on a peut-être beaucoup mangé tard et que l'on s'allonge et ensuite qu'on fasse un rêve. Et justement ce que dit Frère Branham est extrêmement important. Et nous pouvons tous le retenir. Quand quelqu'un vous raconte un rêve, soit il y a un écho, soit cet écho n'est pas là. Soit il y a dans votre cœur un oui, soit il n'y a rien dans votre cœur. Et s'il n'y a rien, alors n'en faites rien non plus. Et oubliez-le. Et si un écho est là, alors faites-le nous savoir afin que l'on puisse ensuite le vérifier ou vérifier si Dieu veut parler à travers cela. Mais ne venez pas avec une marmite ou une soupe ici. Et il poursuit, citation, « Si cela s'est passé ainsi à l'époque, c'est parce qu'il n'y avait pas de prophète dans le pays à l'époque pour interpréter le rêve. Il n'y avait pas de prophète comme Joseph, comme Daniel, et ces prophètes de cette époque l'ont fait. Et Dieu les a utilisés pour donner des songes. Alors pour nous, cela signifie que toute l'histoire est terminée s'il n'y a pas de prophète. S'il n'y a pas de prophète qui puisse donner une interprétation divine, alors oublie surtout ce que tu as fait comme rêve, si cela doit être encore interprété. L'avez-vous compris? Si dans un rêve, il y a une instruction très claire comme celle de Joseph, prends la mère, prends l'enfant, fuis en Égypte, car on voudra à sa vie, et ainsi de suite, selon Matthieu 2, verset 13. Si dans un rêve, une instruction claire vient et que le Seigneur parle par toi ou par moi, ou par toi ou par moi, tout va bien et tout est en ordre. Et nous sommes ouverts à cela et nous croyons ce qui est écrit dans Joël chapitre 3 verset 1. Et ils recevront des révélations en songe. Ça c'est le verset de Joël 2 verset 28. Pas seulement des songes, mais des révélations, des instructions, des réponses qu'ils recevront. Pas une chose que l'un interprète d'une certaine manière et l'autre d'une autre manière et un troisième encore d'une autre manière. C'est ce que nous voulons oublier une fois pour toutes et pour toujours au nom du Seigneur. Tout rêve qui doit encore être interprété, que ce soit par le rêveur ou par d'autres, vous ne devez le raconter à personne. Vous pouvez l'oublier et cela immédiatement, car il n'y a pas de prophète. Littéralement parlant, s'il n'y a pas de prophète comme Joseph, Daniel ou ses prophètes, comprenez-vous ou connaissez-vous un prophète à qui vous pouvez raconter un rêve pour qu'il nous l'interprète? Connaissez-vous un? Non, moi non plus. Alors, oublions tous les rêves qui nécessitent une interprétation et tenons-nous-en uniquement aux instructions claires de Dieu. Êtes-vous d'accord? Tous ensemble d'accord? Alors, très bien. Et je le dis ici, il s'agit d'un contenu inspiré par l'esprit, associé à un langage inspiré par l'esprit. Et là, ton langage et le mien doivent être mis de côté. Et le langage de notre Dieu doit être compris et pris en compte. Car une fois pour toutes, nous ne pouvons plus ignorer ces choses. Il faut établir un ordre divin dans la maison de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Sinon, nous n'avancerons pas d'un pouce. Et nous remuerons les choses ici et là comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Vous pouvez vous lire, le lire vous-même dans cette prédication, les dons appropriés à la page 8. Deuxième partie. Ici, il dit dans la suite, ici, cela va encore plus loin, il dit dans la suite dans cette prédication, je voudrais ajouter quelque chose. Il n'y a pas d'étrangers ici à cette heure de prière ce soir, je suppose. Mais laissez-moi dire quelque chose. Ceci est pour la réflexion et l'approfondissement. Notez et réfléchissez à cela. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes encore car je vais vers mon Père. » Avez-vous prêté attention à cela? C'est ce que le Fils de Dieu a promis aux croyants. Il a promis qu'un croyant ferait dans ces derniers jours des choses encore plus grandes que celles qu'il a faites. C'est écrit dans Jean chapitre 14, verset 12. C'est vrai. Croyez-vous que Dieu l'a dit? Ici, c'est nous tous qui sommes interpellés et pas un seul. Et vous savez très bien que le Seigneur ne m'a pas parlé de miracles et de signes lors de mon appel, mais plutôt de la distribution de la nourriture. Que puis-je faire pour cela? Dans certaines circonstances, il y a suffisamment de personnes capables d'accomplir des miracles et des signes. Mais le plus important et le plus nécessaire est l'édification spirituelle de l'Église épouse en ces jours. Et pour cela, il y a la parole envoyée par Dieu afin que nous prenions la nourriture spirituelle et que nous devenions forts et vigoureux devant notre Dieu et qu'à la fin, il puisse effectivement nous bénir ensemble comme il l'a fait au commencement. Si j'avais un grand ministère, avec des miracles et des signes, alors je ne serai pas ici en train de lire ce sermon de Frère Branham. Alors je n'aurai peut-être pas le temps de distribuer la nourriture, mais on s'en irait bercé par les miracles et les signes, par des vagues de bénédictions, et le retour du Seigneur aurait lieu, et l'épouse ne serait pas préparée. Mais Dieu a envoyé une parole à l'épouse et vous la lirez tous dans la lettre circulaire présente lorsqu'il a été dit à Frère Branham, « Assieds-toi et écris, car c'est une parole qui est adressée à l'épouse. » Amen. Alors il s'agit de bien plus qu'un grand évangéliste. Il s'agit aujourd'hui de la chose principale. Au commencement était la parole, et la parole est aussi à la fin, et la parole a été envoyée et nous a guéris. Si nous acceptons les corrections sous la proclamation de la parole, alors le moment viendra ou devra venir, où la parole devra devenir manifeste par nous et à travers de nous. Je peux croire de tout cœur que Dieu est plus que capable de prendre ce pitoyable tas d'argile pour faire quelque chose de puissant. Mais alors, le tas d'argile saura qu'il n'a rien fait, mais que c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Et je pense que nous devons faire davantage confiance au Seigneur que jusqu'ici. Et lorsqu'il nous est dit qu'à la fin, ces grandes choses se produiront, et cela dans l'Église épouse, alors c'est un contenu inspiré par l'Esprit, associé à un langage inspiré par l'Esprit, et tout cela résumé est le dernier discours de Dieu à l'Église épouse en ces jours. Et tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront ce que l'Esprit a à dire aux Églises. Il est écrit dans la suite ici, dans cette prédication. Notez que lorsque Jésus a multiplié le pain en le créant, il a pris un pain et de ce pain, il a créé d'autres pains. Quand il a multiplié le poisson, il a pris un poisson qu'il avait créé et de ce poisson, il a fait plus de poissons. Est-ce que c'est vrai? Il a pris de l'eau qui n'aurait jamais été transformée en vin et en a pourtant fait du vin. Est-ce que c'est vrai? Mais nous avons vu qu'en ces jours, ces derniers jours, il a créé des choses au milieu de nous sans que rien n'existait auparavant. Voyez-vous de quoi il s'agit? Il s'agit des miracles, des créations directes du Dieu Tout-Puissant. Ici, trois exemples sont cités. Le pain était là et a été multiplié. Le poisson était là et a été multiplié. L'eau était là et a été transformé en vin. Mais il donne aussi ensuite son propre exemple pour étayer ou appuyer ce qu'il dit. Dieu l'a fait au milieu de nous. Est-ce que c'est vrai? Il a créé des écureuils là où il n'y avait pas d'écureuils. Est-ce que c'est vrai? Il demeure Dieu. Il est toujours Dieu. Aujourd'hui, comme il l'était alors et comme il le sera toujours. Il est encore le même Dieu et il nous invite à le croire de tout notre cœur. De plus grandes œuvres que celles-ci, sans avoir rien en main et sans pouvoir et sans rien à voir pour le faire. Il le prononce et cela doit arriver. Il prononce. Alors nous, toi et moi, prononcez-le et cela arrivera. Nous avons ici un seul exemple et il restera dans l'éternité comme le témoignage jusqu'à aujourd'hui. Lorsque cela s'est passé ici avec la voiture de la sœur Witt de Bielefeld, ça c'est notre témoignage. Cela restera vrai devant le trône de Dieu en ce jour-là. Et que Dieu soit mon témoin maintenant et au jour du jugement. Quand j'étais ici, dans cette pièce, et que tout le monde était déjà parti, directement du côté droit, au-dessus de la lampe, va et prononce la parole, que la femme ne soit pas confondue devant son mari incroyant. Il n'y avait rien dans le monde qui aurait pu me retenir. Et personne ne comprend quelle certitude elle a en ce moment. Si Dieu avait dit, appelle ceci ou cela à l'existence, je l'aurais fait exactement de cette même manière, sur son ordre, en sachant qu'il voulait qu'il en soit ainsi. Mais je ne peux pas dire que parce qu'il l'a fait une fois, je peux le faire maintenant pour une deuxième fois. Je ne l'ai pas fait pour la première fois et je ne peux pas le faire pour la deuxième fois ni pour la troisième fois. Celui qui l'a fait la première fois doit le refaire toutes les autres fois et nous lui ferons confiance ensemble et de tout notre cœur pour le faire encore miraculeusement par grâce. Le croyez-vous tous? C'est ce qui nous est dit ici, un contenu spirituel. Et vous ferez les œuvres plus grandes que je n'en ai faites. Et c'est le contenu de la parole, le langage spirituel qui, dans les derniers jours, dans l'Église épouse, trouve son accomplissement. Oui, que disons-nous à ce sujet? Que disons-nous à cela? Nous disons Amen, qu'il en soit comme Dieu l'a dit. Nous ne pouvons pas faire autrement. Ça, c'est sa sainte parole qui nous a été adressé. Il est dit ici, littéralement dans la suite, de plus grande que cela, sans avoir rien en main, sans avoir rien pour le faire. Prononce-le, et cela arrivera. Et maintenant vient, citation, comprenez qu'il a été identifié. Les œuvres qu'il a faites ont accompli qu'il était Dieu. Ses œuvres prouvaient qu'il l'était, car il a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas », selon Jean 10, verset 37. Alors le chrétien ne pourrait-il pas dire aujourd'hui, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Sauveur, alors ne me croyez pas ». Alors, où sommes-nous? Où nous tenons-nous maintenant? À l'époque, notre Seigneur a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. » Et maintenant, la chose s'applique à nous tous. Pas seulement à moi ici devant. Et je sais très bien que vos yeux sont rivés vers moi, tournés vers moi. Il n'y a pas d'autre moyen, mais les yeux d'autres sont aussi tournés vers vous. Et les yeux de Dieu nous voient tous. Car la cause de Dieu n'est pas un système d'un seul homme, mais une église unie dans laquelle il peut se manifester dans sa diversité. Amen. Et c'est ce que nous voulons voir. Et je le lis encore une fois. Comprenez-le. Comprenez qu'il a été identifié. Les œuvres qu'il a faites ont confirmé qu'il était Dieu, et ainsi de suite. Si je ne fais pas, si je ne fais pas les œuvres de mon Sauveur, dit un chrétien, alors ne me croyez pas. Une parole très sérieuse qui nous met à terre, toi et moi, et qui nous rappelle que malgré tout ce que Dieu nous a dit et toute la révélation de sa parole et de sa volonté, cette puissance divine de Dieu qui donne la vie, qui s'exerce ou qui se manifeste, qui crée, qui sauve, qui libère, que cette puissance, cela nous montre que cette puissance n'a pas encore pu être manifestée, révélée comme Dieu l'attend de nous. Mais laissez-moi vous le dire, vous dire que Dieu ne nous abandonnera pas à nous-mêmes dans cet état, mais que celui qui nous a fait des promesses les accomplira aussi et nous conduira à travers cet étroit abîme, afin qu'à la fin, tout honneur et toute gloire puissent lui être rendus. Maintenant, les deux derniers passages. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Selon Jean 20, verset 21. Si vous faites les œuvres de création du Père qui l'a envoyé, Alors, c'est Christ, le Créateur, qui nous a envoyés et qui fait les œuvres de Christ en nous. Alors, toi et moi, nous n'avons alors besoin de rien faire. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit. Notre Seigneur a dit, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais le Père qui demeure en moi et qui fait ses œuvres. Maintenant, Christ doit pouvoir faire sa demeure en nous par la foi et accomplir ses œuvres à travers nous afin de confirmer que nous sommes véritablement des chrétiens. Jésus, notre Seigneur, le Fils de Dieu, a été légitimé par le fait que les œuvres du Père se faisaient par lui. Et il a dit, « Si vous ne me croyez pas, ou si vous ne pouvez pas me croire, croyez cependant mes œuvres. » Et pourtant, il ne pouvait pas croire. Il est dit ici, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et deuxième passage, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Jean 10, Jean 20, verset 21 et Jean 10, verset 37. Alors, Christ doit faire aujourd'hui, alors le chrétien, pardon, doit faire aujourd'hui dans sa vie ce que Christ a fait. Soit nous l'avons, soit nous avons le droit de dire qu'il n'en est pas ainsi. Notez que ses œuvres confirmaient qu'il était le Créateur. Les œuvres qu'il a faites ont couronné le témoignage de sa vie selon lequel il était le Créateur. Il n'y a aucun moyen de passer outre. Ni pour toi, ni pour moi. Nous croyons, comme disent les Écritures, et c'est par grâce que nous vivrons tout cela. Je le crois de tout mon cœur, parce que je sais que Dieu ne fait rien sans avoir associé à cela un but élevé. Et avec cette chose de Dieu, il y a en effet, pour ainsi dire, le but le plus élevé qui doit être atteint, à savoir la transformation et l'enlèvement de l'Église. Il nous a été dit qu'une œuvre brève et puissante s'accomplira par grâce parmi et dans l'épouse. Et à cela nous disons Amen. Nous pouvons le croire, même si aujourd'hui nous ne voyons rien. Mais nous ressentons une chose, que la parole de Dieu a été ancrée dans nos cœurs et qu'elle ne nous lâche plus. Et pour cela, nous sommes reconnaissants à Dieu. Il fera ce qu'il a promis. Loué soit son saint nom. Amen. Amen. Levons-nous et prions ensemble. Frère Rous, peut-être viendras-tu prier. Père Céleste, nous te remercions pour cette heure de grâce. Nous te remercions pour tes bonnes paroles. Nous te remercions pour ta fidélité. Seigneur, tu n'as pas parlé à des chaises, mais à nos cœurs, ô Seigneur. Seigneur, nous savons que ce ne sont pas des paroles en l'air, mais des paroles inspirées par l'Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'elles nous ont été données ce soir. Seigneur, nous te remercions du fond de notre cœur. Puissions-nous ne pas avoir dormi, puissions-nous avoir gardé les yeux, les cœurs ouverts par notre Seigneur, afin que ces paroles y soient tombées Oh, que nous puissions dire oui à chaque parole et que nous puissions dire « Prépare-nous, ô Seigneur » et que nous puissions crier « Viens bientôt, Seigneur Jésus ». Nous, ton peuple, ton épouse, Seigneur, nous t'appelons, nous t'invoquons, ô Seigneur. Mais Seigneur, pas que notre volonté soit faite, mais que tu viennes en ton temps, ô Seigneur. Alléluia. Et tu feras des merveilles en ton temps, Seigneur, et non pas comme nous le voulons, mais comme tu le veux, Seigneur. Gloire à ton saint nom. Nous ne pouvons pas faire autrement, Seigneur, que d'exalter ton nom, de te louer, de t'honorer pour les puissantes paroles que tu nous donnes en ce moment, Seigneur. Nous sommes si reconnaissants que tu ne nous aies pas oubliés, Seigneur, mais que tu aies pris soin de nous. Et c'est ainsi que tu nous parles, Seigneur, et nous t'adorons. Seigneur, tu iras encore plus loin. Nous le croyons de tout notre cœur, Seigneur, et nous pourrons passer de la foi à la vue. Gloire à ton merveilleux nom. Seigneur, nous te remercions de nous avoir unis, de nous avoir forgés ensemble, Seigneur, et que nous soyons ta propriété pour le temps et pour l'éternité. Seigneur, continue à nous bénir, même demain quand nous nous retrouverons encore. Tu seras avec nous, ô Seigneur, et tu nous donneras ce qui est nécessaire. Remercié soit ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. Amen.